Le passage qui sera au centre de notre méditation ce soir se trouve dans la première lettre que Paul écrivit à l'église de Corinthe, au chapitre 15, les versets 42 à 50. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. De même, si nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes parvenus à l'avant-dernière session de notre série de Pâques, prémices de l'éternité. Et je rappelle que le titre ce soir, c'est Pâques, un commencement éternel. Un commencement éternel. Un peu paradoxal comme titre. Un commencement, c'est une page, c'est les premières pages d'un livre qui laisse la place ensuite aux pages suivantes et il y a une fin. Eh bien, l'éternité est déjà à notre porte, elle est déjà entrée en nous. Une éternité digne de ce nom, c'est-à-dire la présence du Seigneur pour toujours. Elle commence à partir du moment où une âme entre dans la communion du Seigneur par un acte de repentance et d'acceptation de l'amour de Dieu. C'est déjà l'éternité qui commence, elle ne s'arrête jamais. Donc, en ce sens, c'est un commencement qui ne s'arrête jamais. Mais, loin de nous, les jeux de mots, nous allons entrer dans le vif du sujet au niveau de ce que nous célébrons à l'occasion de ces fêtes de Pâques, c'est-à-dire non seulement une mort, mais une résurrection. Évidemment, il n'y a pas de résurrection qui ne soit précédée par une mort. C'est presque la palisse qui aurait trouvé ça. La résurrection, on s'en réjouit, Jésus est ressuscité, et d'une façon presque automatique, nous répétons, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous ne savons pas trop ce que ça veut dire. Parce que pour nous, résurrection se réduit à l'apparition d'un corps glorifié, comme celui de notre Seigneur, un corps qui sort du tombeau, et nous, nous nous regardons, moches comme nous sommes, ou beaux, si on a encore certaines illusions. Et on se dit, mais moi je ne suis pas ressuscité. Ça viendra lorsque la trompette sonnera et que les morts en Christ ressusciteront les premiers. En attendant, il faut vivre. Et puis il faut surtout passer par cet instant peut-être un peu angoissant, celui de la dernière heure de notre existence. Alors ressusciter, peut-être à la rigueur, ça veut dire que, oui, il y a quelque chose en moi qui est nouveau, mais on n'entre pas trop dans les détails. Ou alors, on se cantonne dans une répétition, quelquefois inconsciente, d'un tas de versets que l'on répète, sans trop réaliser ce qu'ils veulent dire. Vous savez, trop souvent, dans nos milieux chrétiens, on utilise la Bible comme dans les religions orientales, on utilise la mantra. La mantra est une formule magique que l'on répète des dizaines de fois, l'on fait varier d'un mot, deux mots à la fois, ou peut-être plus, pour, en quelque sorte, entrer dans une présence d'un certain esprit de Bouddha, ou peu importe. La Bible n'est pas faite pour être utilisée par la méthode Coué, pour nous faire rentrer des réalités que nous ne comprenons pas. Et, je le rappelle encore, je l'ai fait peut-être déjà deux fois, ce sera une troisième, que suite au fait que nous sommes héritiers d'une civilisation à caractère célébraliste, cérébraliste, c'est-à-dire tout passe par le cerveau qui comprend, c'est la précondition, eh bien, on se bloque au niveau de la parole. Et dans le cadre de la résurrection, on ne comprend pas, parce qu'on s'est fait comme précondition comprendre. Il faut comprendre. Si je ne comprends pas, je ne peux pas accepter. Je suis laissé impuissant devant la parole. Alors cette précondition devra sauter. Au fond, c'est la croix qui l'a fait sauter. L'homme n'a pas été fait pour utiliser le comprendre, le rationnel, la logique, comme précondition à toute approche de la vérité. En fait, et je ne m'étendrai pas là-dessus, c'est souvent l'objet de mes conférences face aux universités, aux grands intellectuels, c'est de leur montrer que ce que saisit le rationnel n'est en fait rien du tout. Il n'y a pas de vérité objective rationnelle. Ça n'existe pas. La vérité rationnelle, pensée, comprise, n'est en fait qu'une façon pour l'homme de traduire la façon dont Dieu l'a fait. C'est-à-dire un cerveau où il y a des millions de neurones, où passent des courants, des impulsions, et qui suivent un circuit logique, et qui amène l'homme à déduire certaines formes de pensée parce qu'il a observé quelque chose. C'est utile comme outil, je le reconnais. Comme outil pour domestiquer l'énergie disponible pour l'être humain au niveau des civilisations. Et nous vivons dans une civilisation où l'on maîtrise beaucoup de formes d'énergie, alors que dans la préhistoire, celle du feu était à peine maîtrisée. Eh bien, on en a fait un outil tel qu'on veut absolument juger toute connaissance par cet outil. C'est vrai avec les scientifiques, les rationalistes, je dirais, certains scientifiques, ils ne sont pas tous comme ça, Dieu merci. Et finalement, ça diffuse dans notre société. Et nous qui n'avons pas de formation scientifique particulière, on a fait nos humanités sans plus, on a été nuls en maths comme tout le monde, ou presque, et malgré tout on est marqué par cette précondition, il faut que je comprenne avant d'accepter, comme si la réalité de la parole de Dieu pouvait venir par un effort cérébral. Alors on se plonge dans des études de la Bible, et on compare ceci et cela, et la syntaxe, et la taxe, et peu importe. On compare un tas de choses qui ne sont pas comparables. On débouche certainement quelque part. On débouche dans une Bible cérébralisée, et c'est cette Bible-là qui est la source de toutes nos divisions. Parce que autant de sujets avec puissance cérébrale, autant d'interprétations, et chacun se lance son interprétation à la figure, ou plutôt la lance à la figure de l'autre, il lui dit, moi c'est comme ça que je le vois, tant pis pour toi. Ah, tu vois différemment, ben comment est-ce qu'on va raccorder ça? La Bible se lit, comme nous l'avons découvert l'autre jour, je l'ai rappelé, je ne sais pas si vous étiez là, dans une écoute, un accueil. La Bible s'accueille comme une personne, car au-delà des mots, des caractères d'imprimerie, c'est la parole même de Jésus, c'est Christ lui-même qui nous parle, qui parle à l'homme, qui l'interpelle. Donc, quand on rencontre Christ, on le rencontre d'abord et toujours sur une croix. Ça veut dire, en termes pratiques, au niveau de la lecture de la Bible, que doivent se déposer au pied de la croix tous mes préjugés rationnels, toutes mes préconditions de comprendre. Et que je dois venir dépouiller de cela. Seigneur, tu me parles à travers ta parole, je vais la lire, mais au moment où mon cérébral va entrer en action, Seigneur, je te supplie que ce ne soit pas le premier engrenage qui se mette en route. Que ce soit une interpénétration de ton esprit dans mon esprit, un écho du divin au plus profond de moi-même. Et ensuite, Seigneur, je suis prêt à ce que cet engrenage cérébral, que tu as créé d'ailleurs, se mette en route et m'aide à comprendre cette fois-ci. Mais voyez, la précondition, c'est un dépouillement devant la croix de toutes nos préconditions. Et à ce moment-là, la parole nous interpénètre et va beaucoup plus loin que toutes nos techniques de lecture de la parole. Eh bien, ce soir, vous avez entendu un passage lu par notre frère dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, les versets 42 à 50. Et on défilait devant nos yeux, pour ceux qui la regardaient, et près de nos oreilles, pour ceux qui écoutaient, des mots qui peut-être nous ont semblé un peu spéciaux. Il est parlé de corruptibilité, incorruptibilité, des corps célestes, des corps terrestres, l'image du céleste, etc. Il semble qu'on y perde son latin. Et pourtant, au-delà des mots de cette parole, il y a une vérité extrêmement riche. Il y a, non pas une vérité, je dirais, un aspect de la vérité qui est Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et loin de nous de faire une étude de ce texte, car j'aimerais, une fois de plus, comme je l'ai dit tout à fait au début, attirer votre attention, mais cette fois-ci, je le répète, votre attention spirituelle, avant que ce soit l'intellectuelle, sur la résurrection. Et j'aimerais en particulier m'arrêter sur la fin du verset 45, « Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Et le contexte nous le présente comme l'Adam ressuscité, un Adam spirituel, alors que le premier n'était qu'un Adam charnel, et la chair précède toujours l'esprit. On nous a beaucoup inculqué la notion pendant des siècles que le premier Adam était une créature parfaite, corps, âme et esprit, il avait une communion parfaite avec Dieu, et alors on ne s'explique pas comment se fait-il qu'un être aussi parfait ait pu chuter. La perfection ne peut pas chuter. Là encore, Paul nous ramène à la réalité des choses. Il nous dit que le premier Adam n'était que biologie et psychisme, c'est-à-dire ce que nous étions avant de connaître le Seigneur, avec tous nos dons, nos facultés, notre façon de penser, de réagir, d'avoir des émotions, de pleurer, de rire, d'aimer, de haïr. Tout cela était en nous, cet homme animal. Animal pas dans le sens péjoratif, on n'est pas plus que des chiens. Animal dans le sens d'être purement charnel, c'est-à-dire toute la création jusqu'au stade animal compris, une création qui, dans son état tel que nous le voyons, est appelée à disparaître. Mais Dieu a créé au niveau du premier Adam un espace dans notre être, une capacité d'esprit, c'est-à-dire un vase qui est appelé un jour à se remplir. À se remplir de quoi ? De l'Esprit divin. Mais l'Esprit divin ne remplit pas le premier Adam. Il n'est qu'une âme vivante, un psychisme vivant et une biologie vivante. Et ce premier Adam, évidemment, n'est pas en position d'assumer parfaitement son équilibre face à la pression de la tentation. Et il s'écroule. Il s'écroule, mais il s'écroule pour qu'il réalise à quel point, loin de Dieu, coupé de Dieu, il ne peut par lui-même remonter la pente, même au prix d'une religion aussi parfaite que la religion d'Israël, une religion où la loi était donnée, où le sacrifice sanglant avait lieu pour le pardon des péchés, car ce sacrifice sanglant ne préfigurait qu'une partie du salut. Le sang enlevait les péchés du peuple d'Israël, mais Dieu avait délibérément fait préfigurer qu'une partie du salut pour précisément montrer que l'essentiel reste à faire. Et que si péché il y a, c'est surtout parce que pécheur il y a. Péché, ça veut dire faire des actions à côté du plan divin, à côté de la plaque. C'est ce que le mot rata hébreu, c'est curieux comme ça résonne bien avec le verbe français conjugué au passé simple, rater quelque chose. Mais c'est ça, c'est un raté. Rata en hébreu veut dire à côté du but, à côté de la cible. Ça veut dire que l'homme, même au meilleur de lui-même, l'homme animal, au meilleur de lui-même, ne peut, dans tout son effort pour plaire à Dieu, que passer à côté de la cible. Et parce qu'il passe à côté de la cible, un contentieux se crée entre Dieu et lui, parce qu'il n'a pas répondu à l'objectif divin, et ce contentieux ne sera effacé que par le sang. Mais ce n'est qu'une partie du salut qui est ainsi préfigurée, parce que pour résoudre le problème, il faut non seulement effacer le contentieux, mais supprimer l'auteur du contentieux. Je ne dis pas guérir, changer la mentalité. Il faut supprimer l'auteur du contentieux. Voilà la grande annonce du salut. C'est pour cela que, comme nous l'avons lu, comme nous l'avons vu, le Vendredi Saint, à la croix de Golgotha, Jésus, non seulement par son sang, efface nos péchés une fois pour toutes, nos péchés du passé, mais parce qu'il nous implique dans sa mort, il nous prend avec lui sur la croix, et Paul le répétera combien de fois nous avons été crucifiés avec lui, eh bien, il porte un coup définitif à l'auteur du contentieux, le pécheur. Et le grand drame dans beaucoup de personnes, de chrétiens, qui pensent être convertis, être devenus chrétiens, c'est qu'ils ont accepté la première phase, que le contentieux soit enlevé, mais ils ne sont jamais entrés dans la deuxième phase, qui est une mort. Ils ont refusé de mourir, ils entrent dans la vie chrétienne, les péchés du passé effacés, mais l'auteur du contentieux est toujours vivant, il continue à réclamer ses droits, et il met le chrétien et le possesseur de ce auteur du contentieux dans une situation terriblement embarrassante. Car avant, il vivait suivant la vaine manière de vivre. Il avait sa petite philosophie, c'est le monde qui nous entoure, c'est ça, et puis il essayait de la suivre. Il avait peut-être à la limite une petite religion, mais maintenant qu'il a accepté que Jésus, par le sang de la croix, efface ses péchés, il se trouve dans une situation embarrassante, n'ayant pas vécu la deuxième partie du salut, parce que, d'un côté, il veut plaire au Seigneur, il ne veut plus vivre selon la vaine manière de vivre, mais de l'autre côté, il découvre cette hauteur du contentieux qui tire en arrière, en sens opposé, dans des désirs propres à la chair, dans l'affirmation de son moi. Je veux m'affirmer là où je suis, je veux qu'on me reconnaisse, dans l'examen de son moi, dans la soumission de l'examen de son moi à des spécialistes de cet examen, tous les psys du monde. Et il vit avec cet être auteur du contentieux qui ne répond pas à son désir de servir le Seigneur. Et à chaque fois, il voit la différence, il est déchiré, il passe par toutes sortes de thérapies et il retombe. Il obtient un soulagement temporaire, et il retombe. Il s'humilie devant le Seigneur, il demande pardon, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Jésus, quand il le dit à travers sa parole, il ne ment pas, sa promesse est fidèle. Les péchés qu'il commet parce que l'auteur du contentieux n'est pas mort, Jésus les a déjà effacés par le sang de la croix, mais il retombe et il repart toujours sur la même pente. Et quelquefois, après même pas quelques années de christianisme, il s'étonne, il est déçu. Et je me rappelle à Strasbourg, dans une grande église chrétienne évangélique, où le dimanche après-midi, on avait l'habitude de tenir une réunion d'évangélisation, donc pour les âmes qu'on amenait de l'extérieur, pour leur salut. J'avais prêché la croix dans sa toute dimension, c'est-à-dire non seulement les péchés ôtés, mais le pécheur mort. Et j'avais montré toutes les implications de cela. Et ensuite, c'était la prière pour les malades. Or moi, quand on me demande de prier pour le malade, je n'aime pas le travail de série. Imposition des mains, suivant. Imposition des mains, suivant. Je n'aime pas ça. J'estime qu'un être humain a une valeur infinie devant Dieu, et je dois respecter l'infinitude de cette valeur. Alors, dans la mesure du possible, je pose la question à la personne, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi venez-vous en avant? Parce qu'il faut que la personne sache, elle confesse pourquoi elle vient en avant, et à ce moment-là, je prie avec elle. Eh bien, dans 3 cas sur 4, c'était des chrétiens qui venaient me dire qu'ils piétinaient depuis tant d'années de christianisme, ils ne savaient plus où ils allaient, ils piétinaient parce qu'ils voulaient être fidèles au Seigneur, et sans arrêt, ils étaient rappelés en arrière, et ça n'allait pas. Et j'ai découvert, au cours de ces nombreux voyages que j'ai faits par invitation, que le grand problème dans le monde chrétien, c'est qu'on n'a pas su vivre cette mort à soi-même, parce qu'on n'y est pas entré. Et que de ce fait-là, il n'y a pas résurrection, car pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il ait mort d'abord. Pour que nous soyons réellement ressuscités avec Christ, Il faut que nous soyons morts à nous-mêmes. Jésus a tout fait pour cela, mais il ne va pas nous imposer cette mort. Il faut que nous y entrions. Ça veut dire, il faut qu'on se sacrifie. Il faut qu'on rejette derrière soi toutes ses prétentions, ses préconditions, sa façon de projeter son christianisme dans l'église où on est, sa façon de vouloir servir le Seigneur. Tout ça doit partir en arrière, disparaître. Vous savez, Jésus avait vu tout cela. Bien longtemps avant même les apôtres qui ont écrit les lettres aux églises. Il avait vu et il nous avait mis en garde maintes et maintes fois. Entre autres, il avait utilisé l'image que vous connaissez tous de ce manteau, un trou. Alors des trous béants, ou même petits, peu importe. Un manteau qui quelquefois tient à peine debout. Il tient debout à cause de la crasse, mais il ne tient pas debout par lui-même, à cause de tous ses trous. Un manteau sur lequel il est tellement tentant de procéder à deux choses, à laver, et puis ensuite à mettre des pièces de drap neuf pour couvrir les trous. On va choisir son tissu, on dit tiens, c'est presque la couleur, mais je ne suis pas satisfait. Je vais en trouver quelque part ailleurs, tiens, il y a une foire au tissu la semaine prochaine, je vais peut-être trouver mon bonheur. Et on finit par trouver son bonheur, on rapièce ce manteau, on donne en fait ça aux professionnels qui font un travail remarquable. Et les professionnels mettent une pièce de drap neuf, ou plusieurs, d'une façon telle que lorsque je remets ce manteau, il est comme neuf. Et là commence l'illusion. Car Jésus nous prévient, ça va durer un certain temps, mais après, il va se redéchirer et sa ruine sera encore plus grande. Car ce que propose Jésus à travers l'œuvre de la croix, ce n'est pas de rapiécer ses manteaux, c'est de nous en donner un neuf, la robe blanche des rachetés. Voilà ce qu'il nous propose. Et que fait-il de ce manteau? Le rapiesse-t-il? Pas du tout. Il le jette, il le déchire, il le détruit. Il ne veut pas savoir ce que vaut ce manteau, même s'il n'y a qu'un tout petit trou, même s'il n'y a même pas de trou, il y en a toujours. Eh bien, il ne veut pas en entendre parler. Car il est venu pour nous donner un manteau neuf qui va jusque dans la vie éternelle. Voilà ce que la croix a fait. Alors, parce qu'on n'arrive pas à évacuer ce boulet qui est l'auteur, donc du contentieux, dont on ne s'est pas débarrassé, on essaye par toutes sortes de moyens de le faire vivre, alors qu'il devrait être mort. On essaye de le faire vivre en, par exemple, pratiquant sa petite religion, en allant fidèlement au culte. Je n'ai rien contre la fidélité au culte, au contraire. Mais si on en fait une fin en soi, en se disant « Ainsi, je vais peut-être pouvoir freiner ce vieil homme qui, sans arrêt, me dérange, m'interpelle, m'inquiète, m'angoisse. Peut-être qu'en allant régulièrement au culte, la lecture biblique et la prière, les choses vont changer. » Et les choses ne changent pas. La déchirure s'agrandit. Alors, de guerre lasse, on perd les pédales, et alors, le siècle nous fournit une technique, plusieurs techniques. On nous dit, bon, tu souffres de l'œil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir l'oculiste. Tu souffres de la gorge ou des yeux, tu vas voir l'otorino. Si tu souffres dans ton psychisme, eh ben, va voir le psychiatre, va voir le psychothérapeute. Sans nous rendre compte que si l'âme est malade, c'est parce que l'auteur, le possesseur de cette âme, notre être charnel, n'est pas mort. Quand Jésus nous crucifie avec lui, il crucifie cette chair. Car ce premier Adam n'est pas viable, il a montré tout au long de son histoire, non seulement il a amené la chute et ses conséquences, mais il a montré que même dans le cadre d'une religion comme celle d'Israël, il ne s'améliorait pas. Donc, il a suffisamment montré sa défaite. Et pour ça, il est crucifié. Mais non, maintenant, on veut encore contourner la croix et continuer à vivre un compromis entre notre désir de plaire au Seigneur et puis d'essayer de colmater les brèches créées par cet impossible premier Adam qui reste toujours en nous. Voilà le drame du christianisme. Alors, Paul nous le rappelle. Il nous dit que lorsque la vie de l'Esprit entre en nous, nous devenons progressivement ce deuxième Adam. Nous ne devenons pas instantanément un être 100% spirituel, avec la chair complètement maîtrisée. Nous serions saints, S-A-I-N-T, à 100%, nous serions déjà avec les anges en train de voler là-haut. Non, c'est là que tout commence. Mais pas un commencement au niveau d'un effort personnel. Un commencement au niveau d'une réalisation, d'une proclamation. En effet, à partir du moment où l'Esprit entre en moi, ce vase enfin se remplit, quelque chose de fondamental se passe. Une lumière, une vie entre en moi. Mes priorités se réorientent. Je vois ce qui plaît à Dieu dans ma propre vie et je vois immédiatement ce qui en moi, déjà une première couche de mon être me montre à quel point cette vieille nature est opposée. Et c'est là peut-être que je commence à paniquer. Parce que il me semble avoir lu que j'avais été crucifié avec Christ. Donc, en fait, la chair ne devrait plus m'inquiéter. Et à peine je commence ma vie de chrétien, je remarque cette force qui me tire en arrière. Sans arrêt, elle me tire en arrière, je finis par tomber, je demande pardon, je me relève, le Seigneur me relève, je repars et hop, ça recommence. Alors Seigneur, j'ai été crucifié avec toi et voilà le résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce que la vie de chrétien sur terre, c'est précisément de vivre la puissance de la croix, que Dieu n'applique pas sur nous, ne nous impose pas, mais qu'il nous donne en tant que puissance pour dominer cette chair. Car la différence entre avant m'être tourné au Seigneur et après, c'est qu'avant j'étais incapable de maîtriser mon premier Adam, maintenant je suis capable. Et parce que je le maîtrise, parce que je le neutralise grâce à la puissance de la croix, eh bien, il ne peut plus bouger, il est comme mort. L'image que j'utilise souvent est la suivante. Supposez que vous soyez tranquillement un soir chez vous, vous entendez du bruit dans votre bureau, vous rentrez, qu'est-ce que vous voyez? Un cambrioleur. Vous le surprenez sur le fait, et avant qu'il ait le temps de vous maîtriser, vous avez filé vers le tiroir de votre bureau où il y a un revolver, vous le sortez, vous le menacez, et vous dites « couche-toi par terre, ne bouge plus, sinon je tire ». Vous prenez le téléphone, vous appelez la police. Dès qu'il fait la velléité de lever sa tête, attention, bouge pas, je t'ai prévenu, je tire. Il est sous la menace de votre arme, et en attendant que la police arrive, il est neutralisé, il se comporte comme un être mort, quoique vivant. Il est mort parce qu'il est neutralisé. Vous n'y avez pas tiré de balle dans la tête, il est là, il ne peut pas réagir. Il est sous la menace d'une puissance qui le terrasse. Et ensuite, la police arrive et votre problème est terminé. Eh bien, c'est cela. Ce que la puissance de la croix nous fournit, c'est cette force de maîtriser tous les tiraillements en arrière de cette première nature. Et dans la mesure où je la maîtrise, elle se comporte comme une nature morte. Et à ce moment-là, réellement, je suis mort à moi-même. Et je vis en Christ. Et tant que je continue à vouloir associer les deux, faire un compromis, je me trouve dans une situation de balancement permanent, d'hésitation. Et Jacques, vous savez ce qu'il dit? Celui qui oscille sans arrêt comme ça, eh ben, il n'est même pas digne d'être un enfant de Dieu. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans son immense amour, ne nous laisse pas souvent longtemps comme ça. Déjà, il nous laisse suffisamment de temps pour que nous réalisions notre impuissance totale par nous-mêmes. Car vous savez, l'adversaire est malin. Même une fois que nous sommes tournés vers le Seigneur, lui vient et nous dit « Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut maîtriser ta nature. Alors tu vois, la prochaine fois que tu as envie de faire ci et ça, eh bien tu vas prendre ta volonté à deux mains, tu vas dire « Maintenant je suis quelqu'un, je me maîtrise. » Ça marche une fois, deux fois, la troisième fois, crac, c'est la grande dégringolade. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on a oublié l'essentiel. On a oublié la croix. La croix n'est pas une solution d'une espèce de réévaluation de l'ego, ça, une remise en valeur de l'ancien Adam qui devient animé d'une volonté où il se maîtrise lui-même. Non. C'est la puissance de la croix. C'est cette journée qui commence où je me place devant le Seigneur, je dis « Seigneur, je sais que ma première nature va encore me tirer en arrière dans telle et telle occasion peut-être. Mais je sais que tu as vaincu tout ça sur la croix. Donne-moi simplement d'être vigilant, que ton esprit m'avertisse avant que ça ne m'arrive. Et l'esprit est fidèle. Nous sommes vigilants, nous sommes en attente, et dès que la tentation vient, nous nous détournons de la tentation, nous voyons au-delà, nous voyons le crucifié et le ressuscité, et nous disons merci Seigneur pour la puissance de cette croix, nous proclamons cette puissance de la croix, voilà le secret, et à notre grande surprise, la tentation recule, n'a pas eu de prise sur nous. Voilà le secret de la vie, c'est ça le deuxième Adam vivant. Et d'ailleurs, j'aimerais lire, pour illustrer cela encore mieux, un passage très court d'ailleurs, dans Romains, un verset, dans Romains 8, le verset 11. Le verset 11 de Romains 8 nous dit ceci, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Rendra la vie à vos corps mortels. Ce même esprit qui a ressuscité Christ, parce que vous avez été crucifié en lui, et que ce même esprit a ressuscité Christ, donc lui a amené une vie, était au-delà de la vie du Fils de l'homme qu'il était, une vie éternelle. Eh bien, ce même esprit va faire le même travail, si toutefois il habite en vous. Voilà la question, habite-t-il en moi? Alors là, c'est la panade, excusez-moi l'expression, c'est la bouillabaisse. Combien de gens disent « Je dis ceci par l'Esprit, l'Esprit m'a dit cela » et souvent ils prennent leur propre désir pour des réalités spirituelles. Quand l'Esprit habite en nous, on ne jongle pas aussi facilement avec la présence de l'Esprit. C'est la présence divine, l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose de sacré. Une réalité qui me dépasse, devant laquelle je suis muet, je suis comme mort. Hein? Même dans le temps, Moïse ne pouvait pas soutenir la présence de Dieu, il fallait qu'il tourne son dos quand Dieu passait. Et nous, nous disons, « Oh ben l'Esprit m'a dit que... » Merci Seigneur, parce que c'est pas l'Esprit qui nous a dit des choses légères comme ça. Ce n'est que notre nous-mêmes. Quand, si réellement l'Esprit de Dieu vient dans ce vase que Dieu a créé, lorsque le premier Adam meurt et laisse la place au second, à cet être spirituel, à ce moment-là, il n'y a pas une séparation, une décantation. Nous restons toujours corps, âme et esprit, mais tout va changer. Parce que cet Esprit de Dieu, par sa présence, exerce une lumière presque insoutenable. Et avouons-le, souvent nous n'aimons pas cette lumière. Parce qu'elle montre dans notre vie bien mieux que toutes les psys du monde, ce qui est caché, ce qui déplaît au Seigneur. Il n'y a pas besoin d'aller voir un psychothérapeute, ou un voyant, ou qui que ce soit. Il faut se mettre devant la croix et demander à ce que l'Esprit de Dieu nous éclaire de cette lumière insoutenable. À la limite, j'irai voir quelqu'un qui pratique une cure d'âme authentique, parce que vous savez maintenant, dans cette boîte, on met de tout. On met de tout. On met même la psychothérapie freudienne, cure d'âme, on met tout là-dedans. La vraie cure d'âme, celui qui a ce ministère, ça consiste simplement à prendre un chrétien en difficulté et à l'amener devant la croix. Ce n'est pas lui, le thérapeute, qui va trouver les choses. C'est l'Esprit de Dieu qui seul est capable d'éclairer l'intérieur, bien au-delà de toutes les techniques. Alors celui qui dirige la cure d'âme amène quelqu'un qui souffre au niveau de son psychisme, soit de blessures du passé, soit de choses qui se répètent dans sa vie du présent, qui ont peut-être une racine dans le passé. Tout ce que celui qui est, disons, l'auteur de la cure d'âme peut faire, c'est d'amener la personne par la prière, ensemble, devant la croix. Et laisser la place à l'Esprit de Dieu. Ne pas s'interposer entre Dieu et les hommes. À ce moment-là, le miracle s'effectue. C'est une lumière insoutenable qui éclaire non pas seulement le temps de la séance de cure d'âme, mais bien après. Quelquefois, même pas pendant la séance. Pendant la nuit, la personne peut être réveillée, ou plus tard. Dieu seul le sait, son temps est l'idéal. Et à ce moment-là, on voit ce qui, dans notre vie, n'a pas été soumis à la croix. Et trop souvent, à cause de ce phénomène que je mentionnais il y a voici peut-être 10 minutes, ce phénomène de conversion où on accepte que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, mais on n'accepte pas d'entrer dans cette mort, à cause de cela, des milliers de convertis entrent dans la vie chrétienne avec tout leur passé derrière eux, puisqu'ils ne s'en sont pas coupés par une mort. Et avec ce passé rentrent tous les problèmes. Et nos pasteurs, nos conducteurs spirituels, ceux qui ont, disons, devanture de cure d'âme, sont assaillis par des gens qui n'arrêtent pas de se ressasser. J'ai tel problème, j'ai ceci. Bien sûr, ils souffrent, tous ces gens-là. Mais il n'y a qu'une seule réponse. Est-ce que votre vieille nature est morte? Voilà la question à poser. Et celui qui dirige une cure d'âme se devra, par quelques questions, de réaliser, mais surtout sous la conduite de l'esprit, en d'autres termes, quelqu'un qui manipule le psychisme ne peut arriver à aucun résultat positif parce qu'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. L'Esprit ne manipule pas l'être, il est clair. Mais non seulement il n'arrive à aucun résultat positif, il détruit l'individu. Car l'ennemi de nos âmes s'intéresse beaucoup à ce petit jeu. Oh, comme il nous flatte! Il y a tellement de gens qui courent les cures d'âme parce qu'on parle d'eux. Et beaucoup qui pratiquent la cure d'âme parce que ça les rend importants vis-à-vis de ceux qui souffrent. Voilà dans quel piège on est tombé de nos jours. Heureusement que tout n'est pas comme ça. Il reste encore quelques recoins où il y a de la vraie cure d'âme. Vous savez, cure veut dire assainissement, mise en route vers la guérison, soin, âme, le psychisme. Mais qui a fait déjà ce travail avant toutes les psys du monde? La croix, le Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a guéris, nous l'avons vu avant-hier. Dans ce passage d'Ésaïe 53, 5, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En fait, c'est parce que son cœur a été transpercé, brisé de chagrin, qu'en ce qui nous concerne, tout a été remis en mouvement. Et remis en mouvement, c'est le terme guérison hébreu. Voilà la vraie guérison. Tout a été accompli sur la croix. Si nous souffrons de notre passé, la première chose que celui qui dirige une cure d'âme doit faire, c'est de rappeler à celui qui souffre, tu sais, ce dont tu souffres, ça a déjà été traité sur la croix. En fait, tu as été délivré de ça. Si tu vis dans un état de non-délivré, c'est que tu ne l'as pas réalisé. C'est que cette puissance de la croix n'a pas été confessée dans ta vie, et maintenant nous allons nous y employer. Voilà la vraie cure d'âme. Tout le reste n'est que de la manipulation, quelquefois malsaine, et qui détruit l'être individu. C'est comme si on triturait ce vieux manteau. On essayait de savoir d'où venait la déchirure, on essayait de remonter à son histoire, on essayait de coudre une pièce et puis en triturant encore davantage, etc. Non, tout ça, c'est parti. Le Seigneur nous donne un manteau neuf. Ça veut dire que je suis délivré de mon passé une fois pour toutes. Un être régénéré authentiquement par la mort à la croix est quelqu'un qui ne parle plus de son passé. Au niveau des blessures. Ou même s'il lui reste des cicatrices, il en parle avec presque indifférence. Elles ne provoquent plus aucune douleur en lui. Mais nous vivons dans une société où l'homme s'examine le nombril. La religion moderne, c'est le nombrilisme. On s'examine le nombril dans tous les azimuts, dans toutes les sphères de la société. C'est devenu à la mode. Et quelle est l'Église qui ne le fait pas? Ah, maintenant, on s'associe à des psychothérapeutes, même chrétiens, pour s'examiner le nombril, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et on oublie que la croix a traité cela une fois pour toutes. Alors on se dit, c'est quand même une autorité ces gens-là. Ils ont étudié, gloire à Dieu, ils ont utilisé leurs facultés. Mais si au moins on faisait un petit peu preuve de sagesse, ne serait-ce que dans les écrits séculiers qui nous viennent d'un écrivain comme Malaparte, qui a dit « La science si habile à manipuler l'inerte, car la science n'est que manipulation, je vous le fais remarquer en passant, la science si habile à manipuler l'inerte étale sa maladresse dès qu'elle touche au vivant, le psychisme. » Le vivant, et quelle maladresse, parce que c'est une maladresse qui coûte cher. Vous savez, aux États-Unis, toutes ces techniques de thérapie, gestalt, guérison intérieure, et j'en passe, On court depuis près de 50 ans. Et récemment, un cri d'alarme a été jeté par un psychothérapeute dont la vie a été transformée par la puissance de la croix. Il était professeur de psychothérapie à l'université de New York. Il s'appelle Paul Witz. Il a écrit un livre, Psychologie, la religion du moi. Et d'une façon très posée, très documentée, il montre l'effroyable statistique qui vient au nez de tous ces gens. Le taux de suicide de gens non guéris, parce qu'on ne sera jamais guéri, on sera soulagé pour un temps. Le taux de gens qui se suicident a atteint des proportions alarmantes. Alors il crie gare. Ici, nous n'en sommes peut-être qu'avec 10 ans de ces techniques. 10 ans. Mais faut-il attendre 50 ans pour voir les suicides augmenter? Ou n'est-il pas temps de retourner à la valeur de la puissance de la croix? C'est la question que je pose, et vous connaissez la réponse. Si l'Esprit de Dieu, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Il rendra la vie. Mais c'est fantastique. Combien de fois on a reproché au christianisme de faire une espèce de schizophrénie? Une petite vie spirituelle dans un coin, et puis la vie du corps. Quand je dis corps, c'est pas seulement le corps biologie, le psychisme, la partie psychique analysable, continue comme dans le temps, avec des freins qu'on impose par toutes sortes de pratiques religieuses. Et alors, les psychologues du monde nous regardent et nous disent « Mais le christianisme, c'est vraiment un désastre. » Les gens s'isolent une partie de leur être dans une vie qu'ils appellent spirituelle, et le reste, ça continue comme avant. Parce que trop souvent, malheureusement, le christianisme offre le visage de gens qui n'ont pas changé. Ils sont juste pareils. Le même appât pour le matérialisme, par exemple. Le même comportement, etc. Rien de la réalité de Christ ne rayonne, ou presque. Alors ils ont beau jeu de dire cela. Mais parce que si l'Esprit de Dieu, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, habite réellement en vous, eh bien, ça ne sera pas seulement confiné à ce vase. Parce que cette lumière montrera ce qui n'est pas la gloire de Dieu, ce qui est à remettre à la croix, à chaque fois que quelque chose meurt, c'est remplacé par la vie. Et elle s'étend petit à petit au psychisme invisible, au psychisme visible et au corps. Tout change, notre mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, dit la parole dans Romains 12. Parce que dans notre fort intérieur, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Notre mentalité change, nos priorités sont réorientées, et pas seulement réorientées dans le sens qu'on pourrait écrire quelles sont nos nouvelles priorités, dans le sens que, en pratique, c'est ce qui se passe. Nos priorités ont complètement changé. J'ai vu des conversions remarquables de gens complètement coupés du passé et qui étaient pourtant des sacrés poisons dans la société, je peux vous le dire. Complètement changés. Réorientés complètement, c'était des êtres nouveaux et l'impact qu'ils ont eu dans leur milieu professionnel. Les gens ont vu, mais c'est un être différent. Alors on se dit, c'est un cas parmi milliers. C'est pas vrai. C'est ce que la parole nous offre. C'est le don de Dieu. Et nous en avons fait un petit cas particulier qu'un jour on évacue statistiquement en disant que la moyenne des gens ne se comporte pas comme ça. C'est pas vrai. Tout ça, c'est du mensonge. Nous avons été créés pour exactement se comporter comme cela. Ça prend toute une vie. Vous savez, cette interpénétration de la lumière, souvent, il y a des couches extrêmement profondes que même mentalement on ne peut pas découvrir, mais que l'Esprit de Dieu fait découvrir. Et à chaque fois, il le fait, non pas à la manière d'un scientifique de la psy, qui le fait avec le plus de gentillesse possible, mais il n'égalera jamais l'amour de Dieu qui a derrière l'Esprit qui lui découvre ces choses. Jamais. Il le fait avec tant d'amour, l'Esprit de Dieu. Il nous montre, tu vois, dans ta vie, il y a eu cela. Tu vois, tu te rappelles? Bon, eh bien, cela, donne-le-moi. Ne sais-tu pas, ne te rappelles-tu pas que je l'ai crucifié à la croix? Remets-le à la croix, ne le reprends pas. Ça appartient à la croix, laisse-le-moi. Et il le dit avec tant d'amour, qu'on le fait avec tellement d'aisance. Et on le laisse, et on fait un pas de plus, et la lumière avance encore plus, et ainsi de suite. C'est ce qui se passe. Et nos corps mortels, ceux qui un jour disparaîtront dans la poussière, avec leur psychisme, et leur biologie, sont progressivement transformés. J'ai vu des gens même qui avaient une attitude avant leur conversion. Quand je dis conversion, je parle vraiment non seulement de péché effacé, mais de repentance authentique, coupure avec le passé. J'ai vu des gens, même physiquement, qui avaient acquis des allures, vous savez, de lutteurs de foire, tellement ils étaient fiers de leur nature. Et même dans leur comportement, leur marche, ça se voyait. Eh bien, je les ai vus changer complètement, prendre une démarche élégante. Mais oui, parce que Dieu est aussi le Dieu de l'élégance. Pas suivant les critères de Cardin ou de Rochas ou d'autres, mais l'élégance suivant Dieu, c'est encore plus beau. C'est conforme à son plan de beauté pour l'homme. Tout peut changer, tout doit changer. Alors Satan nous montre quand ça ne va pas assez vite. Tu vois, il y a encore ça, mais ça ne vient pas. Et il nous pousse au découragement. Mais il a beau essayer. Lui est du côté des vaincus. Moi, je ne parle pas à quelqu'un qui est vaincu. Simplement, je lui rappelle, quand il vient m'embêter, « Tu as été vaincu, alors fiche-moi la paix. » C'est pas la peine de la ramener, tu es du côté de ceux qui ont paumé la bataille. C'est terminé pour toi. Terminé. Et un jour, tu seras dans les temps de feu pour toujours. Alors, c'est fini. Voilà comment il faut parler à l'adversaire. Et trop souvent, nous composons avec ces insinuations, ces susurrations. Nous composons avec cela. Nous trouvons que c'est pas si mal. C'est l'Esprit de Dieu qui nous montre, derrière une susurration, le mensonge grossier qu'il y a. C'est l'Esprit de Dieu seul. Ce n'est pas par un effort cérébral que nous le découvrons. À quel point il nous faut être soumis à l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais, un peu comme un dernier quart d'heure de cette heure que je passe avec vous, vous lire un autre passage qui se trouve dans le livre des Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 5. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà la perspective de l'éternité déjà affichée par cette lettre à l'église de Colosse. Mais vous remarquerez la condition. Si donc vous êtes ressuscité, et si l'Esprit de Dieu n'est pas permis de vivre en moi, parce qu'à chaque fois que je donne préférence à ma vieille nature, l'Esprit de Dieu est attristé et se retire. Il ne force jamais la porte. Alors, c'est ça de moins de la résurrection. Mais quand il habite en nous, cette résurrection s'affirme au niveau spirituel, car nous étions morts spirituellement. Cet esprit n'était ce vase n'était rempli par rien du tout avant que nous tournions vers lui. Eh bien, quand il est là, il rayonne dans tout notre être et l'être progressivement ressuscite, le bastion de la chair reste. Mais rappelez-vous, il est sous la menace d'une puissance terrible, la puissance de la croix. Il est neutralisé, il est mort, allongé par terre comme mort. Bien sûr, notre chair est toujours vivante, notre psychisme est toujours vivant, la tentation vient et nous sommes appâtés, alléchés par la tentation. Mais la différence, c'est que nous ne péchons plus parce que nous ne succombons plus, non pas par notre propre force, mais parce que celui qui habite en nous, qui a été aussi puissant que de ressusciter Jésus, c'est lui, par sa puissance, qui est là pour nous soutenir et nous rappeler qu'à chaque fois que j'offre prise à la tentation, immédiatement, je dois remettre cette partie à la croix. À ce moment-là, le psychisme et la chair sont maintenus, neutralisés. Un jour, ils meurent aussi, ils disparaissent dans la poussière, mais ils ressuscitent comme un corps glorifié. Et à ce moment-là, mon salut est complet. Car si la parole de Dieu nous dit « Vous êtes sauvés », elle nous dit aussi « Travaillez à votre salut ». Comme s'il y avait une contradiction. En fait, c'est un paradoxe pour nous rappeler que tout a été fait pour le salut. Il ne reste qu'à le mettre en œuvre, pas par notre propre force, pas par des œuvres, mais en laissant l'Esprit de Dieu nous éclairer pour que, grâce à la puissance de la croix, nous neutralisions en permanence ce qui est de la chair. Et c'est ça l'avancée du salut. À ce moment-là, la lumière avance dans notre être entier et nos corps mortels sont visités par le Saint-Esprit de plus en plus. Et nous ne devenons pas des êtres évaporés qui vivent la tête dans les nuages. Nous sommes à notre meilleur. Parce que nous sommes enfin capables d'assumer toutes nos responsabilités, familiales, professionnelles, ministérielles ou autres. nous sommes capables de les assumer. Oh, ce n'est pas facile que de les assumer. Nous le verrons lundi, à 10h, je fais ma dernière session sur cet aspect du vécu quotidien. Ce n'est pas facile, mais dans cette lutte, nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous vivons déjà dans une victoire qui n'est plus à remporter. Souvent, nous nous entendons prier, « Seigneur, donne-moi la victoire. » Mais si nous pouvions entendre le Seigneur nous répondre, nous distinguerions une voix nous disant, « Pourquoi me demandes-tu de remporter la victoire ? Je l'ai déjà remportée, saisis-toi de cette victoire. » C'est tout. Et dans cette perspective, nous avançons. Eh bien, nous débouchons dans cette vue extraordinaire de Paul lorsqu'il écrit à l'église de Colosse. Il nous dit « Cherchez les choses d'en haut, si nous sommes ressuscités, si cette puissance de résurrection avance en nous. Cherchez les choses d'en haut. » La syntaxe du texte a l'air de dire « Bon, ben, faites un effort maintenant, attachez-vous à chercher les choses d'en haut. » Mais quand la vie de l'esprit nous pénètre, il n'y a même pas besoin de se forcer, on est attiré vers les choses d'en haut. C'est quoi les choses d'en haut ? Bon, certains pourraient nommer les fruits de l'esprit, ils ont raison. C'est une expression. Mais Paul va plus loin et dit, les choses d'en haut, Christ est assis à la droite du Père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La droite, c'est le signe de l'autorité et de la puissance. Bon, bien sûr, vous allez me dire, et pour les gauchers, c'est pas pareil. C'est pas une question. Le gauchisme, ça n'existe pas là-haut. La droite est le symbole, la réalité de la puissance et de l'autorité. Rechercher les choses d'en haut, c'est rechercher cette puissance et cette autorité qui nous viennent de là-haut. Et Dieu sait si nous en avons besoin. À chaque fois que ce neutralisé lève la tête pour essayer de reprendre ses droits, nous avons besoin d'une autorité pour lui dire de rester couché, et aussi de souligner cette autorité, de l'appuyer par une puissance réelle, celle de la croix. Voilà cette main droite, ce qu'elle nous offre en haut. Et nous ne pouvons pas faire autrement, lorsque nous sommes habités par la vie de l'esprit, que de rechercher cela. Nous ne nous commandons pas de le faire. Ce n'est pas un effort que nous faisons. Nous ne pouvons pas faire autrement. Et la parole continue en disant « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » En fait, le mot grec est multiple. « Affectionnez-vous » est une façon de voir. Il est plutôt dit « Ayez dans votre entendement, attachez-vous aux choses d'en haut. » Attachez-vous. Vous savez, d'ailleurs le terme « affectionnez-vous » est aussi descriptif, dans le sens qui fait appel à nos sentiments. Quand on affectionne quelque chose, on s'y attache. C'est normal, c'est humain. Eh bien, quand le Seigneur nous demande, à travers sa parole, de nous attacher aux choses d'en haut, ça veut dire que c'est une histoire de goût qui change. On ne se lie pas à ses forces et puis on se dit « Ah, je m'attache aux choses d'en haut » et puis c'est la méthode Coué qui recommence. Ça y est, on est reparti. Ce n'est pas une question de méthode Coué. C'est automatique. Les choses d'en haut, cette autorité, cette puissance, et on la voit, c'est une puissance dévastatrice. Non pas chez les autres tellement, mais à commencer par moi-même. Oh, ces vieux tabous! Oh, ces occasions tellement multiples de chutes où sans arrêt je revenais. Oh, ces blessures qui sans arrêt me revenaient du passé. Mais quand je découvre la puissance qu'a la croix qui m'est proposée dans ces choses d'en haut, quand je découvre l'efficacité de cette puissance, comment j'en suis délivré, beaucoup mieux que par n'importe quelle technique, et d'ailleurs qui ne délivre pas, à ce moment-là, je ne peux faire autrement que de m'attacher, parce que c'est une puissance d'amour, de compassion. Compassion. Notre frère, le pasteur Samuel Dain, nous en a parlé cet après-midi, de ce sentiment qui était en Jésus, la compassion. Et Dieu sait s'il nous a interpellés en nous demandant de faire vivre, de demander au Seigneur qu'il nous fasse vivre en nous cette compassion qu'il avait lui. Eh bien, cette compassion, c'est ce qui nous permet enfin de nous aimer réellement nous-mêmes. Parce que, vous savez, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Alors ça, toutes les psychologies du monde vous le diront. Seulement, le personnage qu'il vous propose d'aimer en vous, c'est ce que vous voyez. Et vous invite à vous analyser, à vous dire, voyez, bon, il y a ce trait de caractère qui n'est pas très bien, mais regardez surtout ce qui est positif en vous, et aimez cela, et comme ça vous pourrez aimer les autres. Quel mensonge! Quel désastre! Non, ce que nous aimons finalement, c'est cette réalité d'un être ressuscité qui commence à prendre corps en nous, qui n'est ni plus ni moins que la réalité de Christ lui-même. Car si nous avons été faits à son image, c'est pour que cette image devienne vivante. Et un jour, elle deviendra une réalité, elle sera confondue avec l'original, qui est Christ lui-même. Mais déjà, cette réalité démarre et on découvre de plus en plus de Christ en nous, de moins en moins de nous-mêmes. On s'analyse de moins en moins, car on est attaché aux choses d'en haut. On est attaché à cette puissance, cette autorité, cette compassion à la personne de Christ. Et notre moi disparaît, fond dans cette lumière. On ne le voit plus, on ne se sent plus vivre, au sens où on ne s'analyse plus. Et on finit par s'aimer parce que c'est Christ que l'on aime. Et on découvre que Christ nous aime. Vous voyez, ça fait un triangle qui se reboucle. Je m'aime parce que Christ m'aime et que j'aime Christ. Et ce que j'aime en moi, c'est ce que Christ a mis de neuf en moi. Ce manteau neuf et non pas ce vieux pillou, excusez-moi, j'ai dit en breton. Pillou, ça veut dire vieux chiffon. Il n'en veut pas. Ça, c'est pas ça qu'il nous demande d'aimer. Et c'est tellement interne. Ce n'est pas quelque chose que j'exprime. Et c'est pour ça que Paul dira, il parlera d'une vie cachée. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est caché, on ne se vante pas cela. On ne déballe pas son intérieur devant les autres. Au moment où on témoigne devant les autres, on ne commence pas à dire, vous savez, j'ai ceci, cela, et puis ça s'est arrangé comme si. Non. Vous savez, il y a beaucoup de camelots maintenant. Nous sommes à un siècle où la publicité, le commerce, ont besoin de ces gens qui déballent les choses. Eh bien, le témoignage qu'ils portent, ce n'est pas tellement ce qui se passe en nous. C'est une annonce de ce que le Seigneur a fait, de dire qu'il fait quelque chose en nous sans en faire découvrir le détail, parce que nous ne le voyons plus avec des yeux humains, ça. On sent que c'est du vécu, mais on ne peut plus l'analyser, on ne peut plus l'exprimer. Ça a dépassé, transcendé tout cela. C'est ça la vie cachée en Christ. On ne s'analyse plus parce qu'on ne peut plus s'analyser. Non pas parce qu'on voudrait et qu'on pourrait, mais on ne peut plus. C'est terminé. C'est sorti. Et alors nous vivons sur un diapason d'un être complètement différent. Et j'aimerais rappeler ce passage que je cite sans jamais lire, dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 16. « Ainsi donc, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, à travers notre étude d'école du dimanche, d'études bibliques, etc., étudiant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais maintenant, si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous rendez compte? On ne se voit plus. Ah si, je peux me regarder dans une glace, je me vois, la tête telle qu'elle est, je ne suis pas peut-être fier, mais c'est fini. Ça ne me vient même plus à l'idée de voir si je suis fier ou pas fier de moi. C'est fini. Je sais que je ne regarde plus ni moi-même ni les autres comme cela. Vous vous rendez compte? Si nous avions les yeux de Christ en ce moment, nous verrions au-delà ce que moi je vois de vous et vous voyez de moi. Car ce que je vois de vous n'est pas votre réalité. Ça, ça va disparaître. Un jour, ce sera fini. Et d'ailleurs, on le voit, il se dégrade quand on vieillit. Ça va disparaître. Votre réalité, elle est invisible, je ne peux pas la voir avec mes yeux de chair, mais je peux la découvrir sur un diapason ô combien plus enrichissant. Je peux la découvrir dans l'amour de Dieu. Lorsque je suis habité par l'Esprit de Dieu, je suis habité par son amour, je vous aime et je vous connais comme Christ vous connaît, invisible aux yeux des humains. Je ne vois plus votre physique, ni même vos défauts. Vous pourriez peut-être me donner une paire de claques, ou me dire une chose insultante, c'est fini, je ne le vois plus. Je ne vois plus, je vois votre être tel que Christ le voit. Et si par hasard, vous entrez dans une phase qui malheureusement connaîtra l'Église, une phase de persécution, vous aurez à faire face à des persécuteurs, à des gens qui vous feront passer par toutes sortes de tyrannies, si nous sommes réellement habités par l'Esprit de Christ, eh bien, au-delà de ceux qui nous font souffrir, nous verrons comme Christ les voit, leur être véritable. Et nous serons émus de compassion de voir à quel point ils sont asservis par les puissances du mal. Et nous les aimerons. Et l'amour est plus fort que la haine. Je pourrais vous raconter des histoires par dizaines au moment de la révolution soviétique, de ce qui s'est passé il y a maintenant 70 ans, là-bas, où des gens absolument bavants de haine, si j'ose dire, tuant les chrétiens, comme ça, à bout portant, étaient d'un seul coup absolument renversés par l'amour de Dieu que certains manifestaient et instantanément étaient complètement changés. Mais ils jetaient leurs armes, ils devenaient instantanément des enfants de Dieu. Extraordinaire. Il y a eu des événements qui nous seront racontés, car un jour, je crois que les chrétiens du RSS déferleront à travers l'Europe, parce qu'ils seront chassés. On a beau essayer de les supprimer, le nombre s'agrandit. Alors un jour, on en mettra à la porte, un peu comme les Juifs, et peut-être même avec eux. Et ils viendront nous dire, nous raconter les merveilles de la puissance de l'amour de Dieu. Au niveau d'abord de la croix, bien sûr, mais avec tout ce qui suit, tout ce que la croix a permis, de ces choses et ces événements qui sont passés. Nous sommes appelés à vivre cette vie, de vie cachée en lui. Nous ne voyons plus l'autre, quel qu'il soit, avec les yeux de la chair, c'est terminé. Parce que Christ a traversé le voile, il a montré que nous avions une autre nature, nous avions une capacité spirituelle pour ceux qui ne le connaissent pas, et une vie spirituelle authentique pour ceux qui le connaissent, et c'est sur ce plan-là que nous les rencontrons. Et cela nous permet non pas de fermer les yeux sur leurs fautes, en disant « Oh, c'est pas de sa faute, il a des excuses, des circonstances atténuantes ». Non, nous sommes quand même saisis, attristés, parce que c'est l'Esprit qui est attristé en nous, par le mal qu'ils font, mais nous ne sommes plus en juge, en accusateur, en critique, c'est terminé. Tout cela disparaît. Et le Seigneur nous donne les paroles de sagesse à dire à cette personne s'il y a quelque chose à dire pour les remettre sur le droit chemin. Voilà la perspective du commencement de l'éternité, dans la résurrection en Christ. Un jour, tout ce qui voile encore nos yeux spirituels, qui s'interpose entre nous, c'est-à-dire notre charnel, notre psychisme, un jour tout cela disparaîtra, non pas pour être anéanti, mais pour être transformé par la mort, comme tout le reste, pour ressusciter dans un corps glorieux. Et alors, à ce moment-là, nous serons authentiquement dans la présence de notre Seigneur et nous nous réjouirons avec tous les rachetés. Et j'aimerais, pour terminer, simplement livrer à votre méditation une parole qui a été inspirée à l'apôtre Jean par l'Esprit qui parlait aux églises et qui parle encore. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Que Dieu nous aide à nous retrouver à ce rendez-vous. Amen.